Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Point d'orgue consacré aux merveilles de la musique sacrée et de la musique liturgique. Vous êtes ici chez vous, vous le savez. Et le fil conducteur que j'ai décidé d'avoir pour aujourd'hui ainsi que la semaine prochaine, c'est la création contemporaine. Alors pourquoi est-ce que je me suis posé cette question sur la création contemporaine? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que quand je vous parlais, quand je faisais mes émissions, je vous parlais souvent de chants grégoriens, souvent de Jean-Sébastien Bach, de Mozart, de Charpentier, de Liszt, de Bruckner, de Duruflé peut-être. Autant de grands compositeurs, mais autant de grands compositeurs morts. Et je me suis dit, peut-être qu'on pourrait m'incriminer sur le fait que d'être un petit peu passéiste et de me dire que finalement, aujourd'hui, ça serait dommage de ne pas passer à côté des merveilles qui sont aujourd'hui encore d'actualité et qui permettent de porter la prière des fidèles. Alors avant de commencer à parler de ce qui se fait aujourd'hui, je voudrais quand même faire un tout petit point un petit peu philosophique, c'est de se dire, effectivement, si on parle beaucoup de ce qui se passait avant, c'est peut-être parce que ce qui se passe aujourd'hui est moins bon. Et il est vrai que de manière globale, ça se vérifie assez. Je m'explique. Avant, dans l'ancien temps, si on prend Palestrina par exemple, l'objectif, c'était celui de la vérité. Si on prend saint Thomas d'Aquin, qui s'est beaucoup appuyé sur les travaux de Aristote, comme vous le savez, le véhicule pour rechercher la vérité, donc Dieu, c'est la beauté. Et en fait, la beauté en musique s'exprimait à cette époque-là par l'harmonie. Donc quand vous écoutez du Palestrina, par exemple, vous avez ces espèces de plages sonores très reconnaissables, avec très peu de modulation, c'est-à-dire très peu d'excursions dans les tonalités voisines du morceau. Vous avez également beaucoup d'accords parfaits. Autant de choses, autant d'artifices qui sont là pour mettre en place l'harmonie et donc la recherche de la beauté et de la vérité. Et en fait, au fur et à mesure du temps, même à partir de Bach, peut-être que d'un point de vue palestrinien, Bach serait totalement hérétique, et peu à peu au fil du temps, les choses se sont complexifiées et on a mis en place des stratégies différentes, des façons de chanter qui étaient également très différentes. Je vous ai déjà parlé de musique spectrale, il y a aussi l'art de la dissonance qui existait déjà avant, certes, mais qui aujourd'hui est poussé à une forme de paroxysme assez assumé des compositeurs. Et aujourd'hui, il est vrai qu'on a ce changement. Donc la beauté n'est pas forcément le véhicule premier. Alors vous me connaissez toutefois, je ne vais pas vous proposer des œuvres moches, parce qu'aujourd'hui encore, il y a des canons de beauté qui subsistent par l'harmonie, même si elles ont une acception différente de ce qui s'entendait par rapport à avant, eh bien on a aujourd'hui beaucoup de richesses et beaucoup de très beaux répertoires. Donc aujourd'hui, je voulais commencer à vous parler d'un des compositeurs contemporains que j'aime beaucoup. Je vous le présente assez souvent. Il s'agit de Ola Yello, compositeur norvégien qui est un grand compositeur à mon sens. Il était encore jeune, il a 46 ans, il a étudié à New York, à la Juilliard School, et il fait partie des grands compositeurs de musique sacrée d'aujourd'hui parce qu'il est capable de se mettre beaucoup au service du texte. Alors il est vrai qu'on va retrouver tous les codes contemporains, mais ce que j'aime particulièrement chez ce compositeur-là, c'est le pont entre le passé et le présent, notamment dans l'extrait que je vais vous présenter, Ave Generosa, qui est un texte de Hildegard de Bingen, vous savez, cette grande moniale bénédictine allemande qui est née en 1098, qui a eu tellement de talent, on pourrait faire des films sur elle, tellement elle a eu de rôles. Elle était abbesse, mystique, visionnaire, illustratrice, compositrice, poétesse, elle a également été médecin, et elle a même créé son propre alphabet. C'est dire sur quel point cette dame était capable de grandes choses. Et c'était notamment une grande mystique, et elle a écrit beaucoup. Et là, le compositeur, Ola Yello, a donc voulu mettre en musique une de ses œuvres, Ave Generosa. Et vous allez voir que dans la façon de faire, il y a des ponts entre le moderne et le passé. Ce qui est moderne, c'est notamment la fin. Vous allez voir, on va se retirer sur la pointe des pieds, comme si on acceptait les bras de cette Ave Generosa, de cette générosité, de cette tendresse. Mais d'un autre côté, vous avez un côté beaucoup plus récitatif, presque comme si c'était du grégorien. Alors, on n'y retrouve que le code, hein. Donc vous avez une plage sonore, comme un bourdon, comme ça se faisait notamment dans l'ancien temps, et la voix de soprane au-dessus, c'est une soprane soliste qui vient nous dérouler le texte. Donc vous allez voir cette espèce de passerelle entre le passé et le présent, et de voir que là aussi, c'est un morceau totalement réussi de Ola Yello. Donc voici donc son Ave Generosa. Magnifique œuvre donc de Hola Yellow, Ave Generosa. Vous avez vu cette façon de se retirer sur la pointe des pieds, cette façon qu'ont les pupitres de se répondre avec des divisions parfois très amples et se terminer comme ça sur la pointe des pieds. C'est toujours là aussi des artifices qui sont contemporains mais avec les codes d'antan dont je vous avais parlé un petit peu avant, afin de nous mettre dans le jus de ce que pouvait penser presque Hildegarde de Bingen. Alors, bien entendu, avec les codes d'aujourd'hui, vous doutez bien que c'est un numéro d'équilibre qui est assez périlleux, mais qui est ici, je trouve, bien relevé par le compositeur Hola Yellow. Alors maintenant que nous avons un petit peu mis le pied de ce genre de musique-là, on va aller dans quelque chose d'encore plus disneylandien, si j'ose dire. Alors pourquoi je dis ça ? C'est pas avec mépris, ça pourrait l'être, parce qu'il est vrai que aujourd'hui, on a tendance parfois à choisir la beauté de la musique au détriment du texte. Et ça, je trouve que c'est un des grands dommages contemporains, et en fait, ça s'entend assez rapidement. Pour qui a l'oreille exercée de savoir qu'on se fait plaisir un petit peu stylistiquement, au détriment parfois du texte. Et dans le morceau que je vais vous présenter maintenant, ce n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que les deux plaisirs sont concomitants et c'est une très très belle réussite. Il s'agit d'un morceau de Stanford Scriven, un jeune homme qui est né en 1988, très jeune donc, un Américain, qui est un compositeur là aussi assez global de musique sacrée et également de musique profane. Et là, je vais vous proposer son Christ the Apple Tree. Il est important de traduire ça. Alors, c'est un petit peu compliqué de le faire de traduction littérale, puisque Apple Tree, c'est le pommier. Mais vous voyez toutes les références qu'il y a à cela, notamment celui de l'arbre de vie. Donc, c'est-à-dire que c'est en Jésus, dans le Christ, que l'on a toute cette ressource, toutes ces choses qui grandissent, puisqu'il y a ce côté de grandir quand on parle d'un arbre, également des racines profondes qui enracinent la foi, et des fruits que cela porte. Donc c'est quelque chose qui est assez prégnant dans l'imaginaire, bien entendu, collectif de tous les chrétiens. Mais il y a une autre dimension que là, j'aimerais apporter à votre attention, tout simplement parce que vous allez l'entendre, il s'agit d'une musique extrêmement calme. Alors, je vous l'ai dit, un petit peu disneylandienne, vous allez entendre par des harmonies très sucrées, c'est-à-dire très agréables à l'oreille. En plus, vous avez ce chant, presque ce cantus firmus, oserais-je dire, donc cette mélodie qui n'est pas du tout ici grégorienne, mais qui pourrait en reprendre certains codes et qui est ici très anglo-saxonne. Vous avez ce chant, cette façon d'amener les harmonies qui est très anglaise. Là aussi, si vous avez l'habitude d'entendre ce genre de répertoire, c'est particulièrement prégnant. Et alors, pourquoi est-ce que je voulais m'arrêter sur ce pommier, sur cet arbre? Tout simplement parce que quand vous allez entendre cette musique, il y a une dimension de calme, de sérénité très profonde. Alors la sérénité dans l'arbre, on peut la retrouver bien entendu dans ses racines, dans le fait d'être nourri également par cet arbre-là, mais moi j'ai une vision qui est très différente, vous allez l'entendre très vite, notamment par les voix d'hommes en fait, qui d'ailleurs ne disent pas de texte au début, ils font des bruits avec la bouche fermée, et vous avez la musique qui va se mettre tout simplement en place, presque comme une berceuse. Et quand j'ai pensé à la berceuse, je me suis dit, oui, c'est tout simplement la sieste auprès de l'arbre. Et là aussi, c'est pas parce que j'ai envie de réhabiliter le feignant, tout simplement parce que quand on fait une sieste au bord d'un arbre, c'est qu'on y est bien, c'est qu'on se sent en sécurité, c'est qu'on est à l'abri de son grand feuillage, et je trouve que c'est ce qu'a mis en place ici le compositeur et qui est parfaitement réussi. Donc vous avez une musique très sucrée, très disneylandienne, comme je vous le disais, tout simplement par la forme musicale, vous allez rapidement l'entendre, ça pourrait presque être une musique de film, une musique de film de Noël, et vous avez en même temps ce service absolu au texte avec cette grande sérénité, ce côté vraiment calme et si reposant à l'oreille. Et c'est là aussi où je veux en venir, c'est parce que ce genre de musique que vous pouvez entendre peut-être dans votre voiture, peut-être que là vous écoutez la radio dans la voiture, etc., eh bien elle trouve sa place, elle trouve véritablement sa place dans certains lieux, comme celui des églises, où il est primordial d'avoir quelque chose hors du temps, hors de l'espace. Et la musique arrive à nous conduire à cela, et c'est ce que je trouve important avec ce genre de répertoire, et que je trouve particulièrement réussi avec ce compositeur Stanford Scriven, qui compose là un petit chef-d'œuvre, une petite pépite, très sucrée donc, comme ces pommes du pommier. Je vous invite donc à découvrir ce Christ, The Apple Tree, Stanford Scriven donc, avec la maîtrise du Mississippi College.
Oh.
Christ the Apple Tree, là aussi une très très belle réalisation, je trouve, de ce fantastique compositeur jeune, là aussi, dont je vous encourage à suivre et à publier le reste des œuvres, parce qu'il est vrai que ces gens-là méritent une belle exposition. C'est vrai qu'il y a ce service de la musique avec le texte que je trouve particulièrement réussi ici, et je pense qu'il faut rendre hommage à ces compositeurs qui sont encore aujourd'hui capables de nous faire goûter ces merveilles, comme on goûte à cette pomme très sucrée, très juteuse, avec ses harmonies si réconfortantes, si chaleureuses, qui nous montrent que là aussi, même dans le chant contemporain, avec les codes du contemporain, c'est-à-dire ces espèces de dissonances, etc., qui viennent un petit peu irriter l'oreille, mais qui viennent tout de suite être rassurées par la résolution de l'accord. D'ailleurs, vous entendez que le dernier accord est tout ce qui est de plus classique, c'est un accord parfait. Eh bien, il y a cette espèce de côté rassurant que l'on retrouve, et notamment chez les compositeurs contemporains. Mais maintenant que je vous ai un petit peu rassuré, il est temps de vous faire un petit peu peur. Et je vais assumer ça totalement avec une œuvre absolument magnifique de la grande star de la composition sacrée, et également, il compose pas que du sacré. De même, lui ne se dit pas vraiment croyant. Alors, quand on écoute son œuvre, c'est un peu comme Gabriel Fauré, on a du mal à le croire parce que, à mon avis, il est mu par autre chose que son propre talent, et vous allez très très vite comprendre pourquoi. Il s'agit de Eric Whittaker, qui est un des grands compositeurs vivants aujourd'hui. Il est né le 2 janvier 1970, il est américain, et c'est un peu la star. Je vous en ai déjà parlé, parce que c'est le grand maître du cluster, vous savez, cette capacité de faire des grandes plages d'accords avec des énormes dissonances, et une musique totalement vaste, totalement ample. Donc c'est un des grands artifices qu'utilise ce compositeur, et notamment dans l'extrait que nous allons entendre, il s'agit d'un morceau intitulé « Oculi Omnium ». Donc là aussi, il s'agit d'un morceau ancien, d'un morceau grégorien, dont je vous fais la traduction ici. « Les yeux de tous mettent en vous leur espérance, Seigneur, et vous, vous leur donnez leur nourriture au temps opportun. Vous ouvrez vous-même la main et vous comblez tout vivant de bénédiction. » Donc on reste dans cette espèce de filiation avec l'arbre de vie, c'est-à-dire le côté espérance et le côté nourriture, et également quelque chose de la bénédiction, c'est-à-dire le fruit, c'est cette bénédiction-là, c'est ce qu'on en retire. Et il y a ici, dans ce motet, quelque chose de totalement incroyable et de totalement tourné vers l'espérance, et vous allez vite entendre que le compositeur va mettre en place des artifices totalement incroyables. Ça, c'est ce que permet la musique contemporaine, c'est de pouvoir bouger certaines limites, et vous allez vite entendre que là, le compositeur va se faire plaisir et nous faire plaisir. Tout d'abord, on va être très centré vers l'aigu, les registres aigus avec notamment les voix féminines. On entendra les hommes qu'à la fin de cette œuvre-ci, comme si finalement on se tournait vers une sorte d'espérance, donc d'élevation et de regarder vers le ciel. Vous avez également une soliste soprane, exactement comme le morceau que nous avons entendu précédemment, enfin le morceau que nous avons entendu de Hola Yellow, vous avez cette espèce de côté grégorien. Donc là, non, le bourdon va être un petit peu moins sage que ce que vous avez entendu chez Yellow, ça va être un grand cluster, et vous avez la voix de soprane qui va se détacher presque céleste, immatérielle, pour pouvoir tout simplement dire le texte latin. Comme une monodie, presque de façon monocorde, avec une petite conclusion tout à fait contemporaine, exactement comme quand on conclut un texte grégorien avec une petite inflexion, vous avez la même stratégie qui est utilisée ici, avec beaucoup de langage contemporain, beaucoup de dissonance, mais qui là donne un côté totalement céleste à la chose. Et ensuite vous avez les grands clusters qui vont recommencer, cette fois-ci en incluant les basses, et vous avez toutes les voix de basse qui vont se diviser et devenir immenses jusqu'à la voix de soprane, et là faisant comprendre que la chose devient tellement vaste, et à la fin on termine avec un cluster là aussi parfaitement resserré qui nous laisse entendre un début d'accord parfait, mais qui est complété par une septième, une neuvième, pour montrer que la complexité de la chose est absolue, comme si les choses restaient insaisissable, comme si finalement dans cette espérance on y mettait notre foi, parce que il y a dans la foi une dimension de pari presque, celui de dire je n'ai pas vu mais je crois, et c'est totalement le sens du texte, puisque au coulis, les yeux sont tout de suite mis là, bien entendu ce sont les oreilles qui sont mises à contribution lorsque vous allez entendre cet extrait. Voici donc Oculi Omnium de Eric Whittaker. Profitez de cette musique absolument extraordinaire, elle est rare, elle est belle, elle est un peu iconoclaste, mais vous allez voir, c'est absolument sublime. Thank you. extraordinaire, me direz-vous. Vous avez raison, vous répondrai-je. C'est la musique de Eric Whitaker qui est là à son apogée, à son maximum de son savoir-faire, c'est-à-dire cette dimension cosmique presque, qui est facilitée notamment par cette vision des choses avec ces clusters que je trouve si sidéraux presque, et qui donnent à cette musique une ampleur tout à fait particulière. Je vous invite là aussi à découvrir le reste des œuvres de son compositeur, sacré comme profane, qui sont là aussi de véritables petites merveilles. Voilà, mesdames et messieurs, pour la création contemporaine. On continuera à en observer la semaine prochaine avec d'autres très très beaux chefs-d'œuvre. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité et à vous dire à la semaine prochaine. Quant à moi, je remercie Mathieu Duboc pour la réalisation de cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres merveilles de la musique sacrée. À très bientôt sur Point d'Orgue.